Donc, les amis, ce matin, nous allons parler du fait d'être saisi par le Dieu insaisissable. Je voudrais vous parler du patriarche Jacob. Il y a Abraham, Isaac et puis Jacob, trois générations. Jacob, était le deuxième né de deux frères jumeaux. Donc, il sort du sein de sa mère avec une main s'agrippant sur le talon de son frère qui est né juste avant lui. Et c'est pour cela qu'on le nomme Jacob. Le mot Jacob signifie usurpateur, celui qui essaie de s'accaparer de ce qui, de quelque chose de manière illégitime. Voilà. Quelqu'un qui essaie de prendre le contrôle à lui, de prendre la place d'un autre qui n'est pas à lui. Et quand nous lisons au sujet de la vie de Jacob dans le livre de Genèse, nous trouvons que, oui, en grandissant, il mérite bien son nom. Vous allez vous rappeler du fait qu'un jour, il trompe son frère jumeau qui s'appelle Ésaü. Et il le persuade de lui céder son droit d'aînesse. Donc, le premier-né dans la culture juive avait le droit d'aînesse, et donc, par exemple, le droit d'une double part de l'héritage du papa une fois que le papa mourait. Et donc, Jacob lui a volé, lui a persuadé de lui donner son droit d'aînesse. Aussi, des années après, il trompe son père, Isaac, qui à cette époque est presque aveugle, en le faisant croire qu'il est Ésaü et en recevant à la place d'Ésaü la bénédiction qui était destinée à Ésaü. Enfin, plus tard, il quitte Israël, il quitte le pays d'Israël pour travailler ailleurs pour un oncle qui s'appelle Laban. Et là, chez Laban, où il habite plusieurs années, il emploie des ruses plusieurs fois pour avoir ce qu'il veut de la part de Laban. Il faut savoir que quand Jacob quitte Israël pour aller chez Laban, Dieu le rencontre dans une vision pendant la nuit. Vous allez vous rappeler, il est couché sur une pierre, sa tête sur une pierre, et il a une vision des anges qui descendent du ciel et qui remonte. Et donc, Dieu le rencontre dans cette vision et lui donne vraiment le secret de la vie, mais un secret que Jacob ne va pas du tout comprendre pendant des années et des années. Certainement pas au moment où Dieu le dit, mais non plus pendant des années après. Et voilà ce que nous lisons, que Dieu lui dit ce jour-là. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, parce qu'il est à la frontière d'Israël, il n'a pas quitté encore, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. C'est une prophétie qui parle du fait que par la descendance par la descendance de Jacob, c'est-à-dire Jésus qui descend de sa lignée, le monde entier, des gens en tout cas du monde entier, vont être bénis, vont trouver la vie bénie, la vie réconciliée avec Dieu et vécue sous la faveur bienfaisante de Dieu. Dieu continue, voici, je suis moi-même avec toi. Je suis moi-même avec toi. Et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Avant de lire le texte de ce matin, sachez que maintenant que vous avez compris un peu le contexte qui est Jacob, cette usurpateur, son histoire, la promesse de Dieu de le bénir. au moment du récit que nous allons méditer ce matin, Jacob est en train de rentrer en Israël. Donc, il a passé des années en dehors d'Israël chez Laban. Maintenant, il rentre. Il est marié, il a deux femmes, il a plein de richesses, de troupeaux, etc. Et il apprend que son frère Ésaü, qui voulait le tuer et qui l'a pas vu depuis des années, Ésaü se dirige vers lui, sa famille et ses troupeaux avec une armée de 400 hommes. Ton frère qui voulait te tuer, la dernière fois que tu l'as vu, il y a des années, tu apprends qu'il se dirige vers toi avec une armée de plusieurs centaines d'hommes. Vous pouvez comprendre à quel point Jacob est désemparé, complètement désemparé. Il réalise qu'il se peut qu'il aille devant un drame, mais vraiment pas possible. Que sa vie d'usurpateur le rattrape. Jacob, donc, on voit ses serviteurs et ses troupeaux avant lui avec des présents, avec des cadeaux, pour tenter d'apaiser Ésaü et gagner sa faveur. Il les sépare en plusieurs groupes, il envoie un groupe avec un cadeau, un autre groupe avec un cadeau, et il espère que le temps qu'il arrive lui-même, Ésaü sera apaisé et favorable envers lui. Jacob, donc, au moment de notre récit, n'a donc que ses deux femmes et deux serviteurs avec lui, donc au moment où notre lecture du récit commence. Nous allons donc lire ces 11 versets dans Genèse 32. Il se leva la même nuit, Jacob, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Alors, il faut savoir que ce ruisseau, ce fleuve qui s'appelle Jabbok, le mot Jabbok signifie vider, ce qui a été vidé. Il est pris, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Alors, il envoie ses femmes, ses servantes, etc. Il envoie tout devant lui et maintenant il est seul à l'autre côté du torrent. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Rendez-vous compte, c'est la nuit et subitement, apparemment, un homme se pointe, un homme inconnu, et il y a une bagarre terrible qui dure pendant des heures de la nuit jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le toucha Jacob à l'emboîture de la hanche, l'articulation de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se disloque pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, cet homme dit à Jacob, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Cet homme lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répond, « Jacob. » Rappelons-nous qu'il est en train de dire dans sa langue, « Je m'appelle usurpateur. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appelait ce lieu du nom de Peniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. C'est la signification du mot pinyan, de voir Dieu face à face. Le soleil se levait lorsqu'il passa Peniel, Jacob boitait de la hanche. Vous pouvez voir cet homme qui maintenant, le reste de sa vie, est handicapé, affaibli, et il boite pour maintenant aller à la rencontre d'Ésaü, de cette armée, tout affaibli, mais béni. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Dans un premier temps, nous avons besoin de comprendre l'identité de cet homme qui lutte avec Jacob. C'est mystérieux, n'est-ce pas? Qui est-il? Parce que sans le comprendre, nous ne pouvons rien comprendre de cet événement. D'abord, au verset 28, nous apprenons que Jacob a lutté avec Dieu. Regardez. Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Deuxièmement, cet homme, il a une puissance surnaturelle. C'est pas un simple homme. Nous lisons que, voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le toucha, juste un petit toucher du doigt. Il le toucha à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Troisièmement, Jacob, au moment où il fait ça, semble comprendre qui c'est, qu'il n'est pas en train de lutter avec un simple homme, et il comprend que c'est de lui, cet homme, que vient la bénédiction. Or, la Bible nous raconte toujours, d'un bout à l'autre, que la bénédiction vient de Dieu seul. Dieu seul peut bénir. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Donc, il comprend que ce personnage qui lutte avec lui est la source divine de bénédiction. Et en fait, ailleurs dans la Bible, nous avons un commentaire inspiré sur ce passage et cette lutte de Jacob avec cette personne. C'est en Osée 12 que nous apprenons que Jacob a lutté avec un ange, entre guillemets, qui était en réalité Dieu lui-même. Nous lisons. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur d'adulte, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressait des supplications. Maintenant, j'arrête les amis. Qu'est-ce qui arrive dans la Bible si quelqu'un essaie de prier, non pas à Dieu, mais à un ange, d'adresser des supplications à un ange? Deux fois dans la Bible, cela se passe et l'ange refuse avec force qu'on lui adresse des supplications et dit « Priez Dieu seul ». Donc ici, nous avons Jacob qui lutta avec l'ange de l'Éternel. C'est un ange particulier dans l'Ancien Testament qui est en fait l'Éternel lui-même prenant la forme humaine ou une forme angélique. Quand Jacob résume son expérience ce jour-là et cette lutte avec cet homme, il dit qu'il a vu Dieu face à face. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Nous pouvons donc facilement conclure que c'est Dieu lui-même qui s'incarne dans un sens, qui vient vers Jacob dans le personnage de cet homme mystérieux. C'est assez étonnant, n'est-ce pas, que notre Dieu vient vers des hommes. Il a affaire avec nous de manière si intime. Alors, nous allons maintenant aborder les points que nous voulons essayer de comprendre, ce que Dieu veut nous apprendre de cet événement. Et le premier point, c'est que Dieu est souverain dans sa manière de s'approcher de nous et de travailler dans notre vie. Alors, qui a commencé la lutte cette nuit-là? Est-ce que c'est Jacob qui a commencé la lutte avec l'ange? Loin de là. Nous lisons, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui. Pas Jacob lutta avec un homme, mais un homme lutta avec lui. Toute l'initiative est toujours avec Dieu. Chers amis, quand Dieu a affaire avec vous, ce n'est jamais, jamais, jamais parce que vous l'avez voulu. Ce n'est pas parce que vous l'avez cherché. Ça ne provient pas de quelque chose en vous qui s'élève vers Dieu. C'est la plus grande fausseté possible. Si jamais il y a une rencontre entre vous et Dieu, c'est à cause du vouloir de Dieu, de l'amour de Dieu, Dieu qui vous a aimé avant que vous n'ayez jamais une pensée pour lui. Donc, Dieu vient vers l'usurpateur, cet homme qui manigance, cet homme qui trompe, cet homme qui n'est pas digne de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, dans son amour, par sa volonté qui nous dépasse, nous ne savons même pas toutes les raisons pour lesquelles Dieu vient vers nous et qu'il a affaire avec nous, parce qu'il agit à partir de son cœur divin et insondable. Il est le Dieu insaisissable. Deuxièmement, Dieu travaille profondément dans notre vie afin d'exposer notre lutte contre lui. Alors, nous avons dit que toute sa vie, Jacob était quelqu'un qui essaie de prendre ce qui n'était pas à lui. Toute sa vie, il essaie de lui-même de s'emparer de la bénédiction, de ce qui est bien, d'une bonne vie, en volant de l'Oadénesse de son frère, en volant la bénédiction paternelle de son frère, en volant des choses de Laban. Et dans tout cela, en fait, Jacob, croyez-moi, est en train de lutter contre Dieu. Vous avez compris pourquoi? Quand il quitte Israël, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de toi. Je te dis, je te bénirai. Et toutes les nations seront bénies en toi et en ta descendance. Par ta descendance, ce sauveur que j'envoie, c'est moi qui vais envoyer une bénédiction sur les hommes du monde entier. Je suis le Dieu qui bénit. Je suis le Dieu qui sauve. La bonté, le bonheur, c'est de moi que ça le vient. C'est en relation avec moi que cela se vit. Et Jacob lutte contre cette réalité toute sa vie. Il tente d'être lui-même la source de sa propre bénédiction dans la vie. Il a ses techniques, et vous aussi. Vous avez vos techniques par lesquelles, aussi acharné que Jacob, misérablement, parce que Jacob était misérable en essayant de faire tout cela, vous essayez de trouver la vie bénie. Et vous aussi, vous êtes en train de lutter contre Dieu parce que vous n'acceptez pas que ça ne vient que de lui, souverainement et de sa bonté. Eh bien, Dieu travaille profondément dans notre vie pour exposer, pour nous montrer que nous cherchons la bénédiction par leur propre force. Regardez, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il y a une bagarre de quelques heures. Et on va se demander, mais pourquoi? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Il aurait pu quand même lutter avec Jacob pendant une bonne heure et puis terminer la chose, lui toucher la hanche et puis c'est fini. Pourquoi est-ce que Dieu lutte avec lui des heures durant? Quel est le message? Sans doute, ça reflète même la vie de Jacob. Jacob, comme nous, Jacob, c'est un entêté. C'est un têtu. C'est année après année après année, il refuse de croire la promesse que Dieu lui avait donnée en quittant Israël. Et il essaie lui-même de trouver un moyen d'arriver à cette vie bénie. Et il lutte avec Dieu d'année en année. Et maintenant, ça se passe dans une nuit, dans une forme, dans un microcosme. La même chose se répète. Voilà Jacob qui lutte contre Dieu. Et Dieu veut lui montrer, voilà comment tu es. Tu ne cesses jamais de lutter contre moi, alors que moi je veux être celui qui te bénit. Et donc, par le fait de cette longue lutte, Jacob apprend aussi combien Dieu est tenace, combien Dieu travaille année après année profondément dans ta vie pour t'épuiser, pour que tu arrives au bout de ton rouleau, au bout de tous ces mécanismes que tu utilises pour essayer de trouver la vie bénie. Et c'est dommage, mais parfois Dieu doit laisser venir dans notre vie toutes sortes de malheurs pour que nous apprenions que notre voie à nous, ça ne marche pas. Cela ne marche pas. Que ce soit la voie de la richesse pour être béni ou la popularité ou les plaisirs ou les accomplissements ou le fait d'être considéré, quoi que ce soit, notre voie ne marche pas. Troisièmement, souvent Dieu travaille dans nos vies de manière incognito. C'est-à-dire, Dieu est au travail profondément dans ta vie, il est en prise avec toi et tu ne sais même pas que c'est lui. Tu ne sais même pas. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et jusqu'au lever du soleil, Jacob ne sait pas que c'est Dieu qui est en prise avec lui. Dieu est incognito. Et peut-être vous aussi, vous avez vécu même pendant des années différentes choses par lesquelles c'est le Dieu de l'univers qui fait pression sur toi, qui essaie de te montrer. Et donc, tu ne sais même pas que c'est lui à travers toutes ces choses. C'est assez spectaculaire, mais c'est souvent comme cela. Ensuite, Dieu fait toutes ces choses pour nous briser de notre péché et nous apprendre le secret de la vie. Je vous ai déjà laissé entendre que ce grand péché maître de nos vies, c'est de compter sur nous-mêmes, de compter sur nos forces, nos manières, nos pensées, nos perspectives, les croyances que nous créons ou que nous avons trouvées, que d'autres hommes ont créées. Quelque chose d'humain en nous ou en d'autres sur lequel nous voulons nous appuyer, nous voulons, comme un citron, faire sortir le jus de cette source de bonheur qui est une fausse source. Mais Dieu voulait apprendre à Jacob le secret de la vie. Et ce secret, c'est toute ta vie, Jacob, tu as tenté toi-même, usurpateur, de t'emparer de la vie bénie. Le secret, c'est que ça vient de mon amour par un simple don. Nous lisons. Cet homme le toucha à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et nous sommes donc au point tournant de l'événement. Et quand il y a un point tournant, souvent dans les récits bibliques, il y a un discours, on parle. Et ce que les personnages disent est très important parce que ça nous interprète l'événement. Donc, il dit, l'ange dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Probablement pour laisser entendre à Jacob qu'il est Dieu. Parce que les Juifs savaient que personne ne peut voir Dieu et vivre. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Alors, Jacob, apparemment, ayant eu sa hanche déboîtée par juste un toucher, réalise que c'est Dieu qui est venu vers lui pour la deuxième fois de sa vie et qu'il est en train de lutter avec lui pour lui montrer que non, tu vas pas continuer dans ce chemin. Il comprend que la bénédiction vient de Dieu, tout simplement, et pas de lui-même. Et il ne lutte pas plus contre cet homme, contre l'ange, contre Dieu. Au lieu de lutter contre Dieu, il s'accroche à Dieu. Il s'agrippe à lui maintenant, sans lutter contre lui, et il dit, non, je vais pas te laisser, à moins que tu me bénisses. J'ai besoin de toi. Maintenant, de toute façon, je ne peux m'emparer de rien. J'ai la hanche déboîtée. Je suis un homme handicapé, complètement affaibli. Qu'est-ce que je vais obtenir de moi-même, de mes forces maintenant? Maintenant, je suis obligé de voir la vérité. La bénédiction vient de toi. Bénis-moi. Prends-moi. Sois la source de mon bonheur, de mon pardon, de mon bien-être, de mon tout. Le soleil se levait lorsqu'il passa à Peniel et Jacob boitait de la hanche. Un homme qui a trouvé le secret de la vie, non pas ma force et mes efforts et ma volonté, mais ta grâce et ton amour. La Bible nous dit ça un peu partout en parlant de la bénédiction. La Bible nous dit, chers amis, qu'il n'y a que deux choix pour vous. Avoir une vie maudite, c'est-à-dire une vie misérable, loin de Dieu, ou une vie bénie, c'est-à-dire une vie en relation avec Dieu, pardonnée par Dieu et dans sa faveur. Alors, Jérémie nous dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Voilà, c'est Jacob ça, n'est-ce pas? Et c'est nous. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme qui prend la chair, c'est-à-dire l'humanité, pour son appui et qui détourne ainsi son cœur de l'Éternel. Est-ce que vous saviez que si vous comptez sur vos forces, vous êtes en train de détourner votre cœur de l'Éternel? Parce que votre cœur dit « Non, 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 il pourra jamais me bénir, c'est à moi de trouver le chemin ». Il est comme, cet homme qui se confie en lui-même, il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte, et ne cesse de porter du fruit. Et bizarrement, Dieu termine ce passage par cette affirmation. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Ah, voilà encore Jacob. L'homme au cœur tortueux qui se confie en lui-même, et Dieu dit, moi, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, et j'expose à l'homme sa tendance à se confier en lui-même et sa propre justice. Je vous lis juste un autre passage, cette fois dans le Nouveau Testament, qui redit la même chose, mais dans un contexte un peu différent. Rappelez-vous, où est la vie bénie? En moi et mes efforts d'être juste, bon, fort, ou dans une grâce imméritée de mon Dieu? Galates 3. Aussi, l'Écriture, voyant d'avance que Dieu justifierait les païens, c'est-à-dire les nations, en vertu de la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies, le voilà, bénies en toi. Le toi, c'est une allusion à Jésus. Toutes les nations seront bénies comment? En toi, parce que Jésus fait à la croix pour eux, pour attirer sur l'homme la bénédiction, la faveur et le pardon de Dieu. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. En revanche, ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi, ceux qui comptent sur eux-mêmes et leur obéissance à Dieu, leur religion, leur rite, tout ce qu'ils peuvent faire pour essayer d'obliger Dieu de les bénir. C'est des fausses religions. Ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi sont frappés d'une malédiction. En effet, l'Écriture dit « Maudit soit celui qui ne met pas continuellement en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » C'est-à-dire, si tu cherches la bénédiction par ton obéissance, ben, il faut avoir une obéissance parfaite. Parce que Dieu n'accepte pas quelque chose de moins que la perfection si vous voulez essayer d'emprunter cette voie. Je finis le passage. Le Christ, en devenant, pensez à sa mort sur la croix du calvaire, le Christ, en devenant objet de malédiction pour nous, nous a délivrés de la malédiction de la loi. L'Écriture dit en effet, maudit soit celui qui est pendu à un arbre. Nous voyons Jésus sur l'arbre de la croix. Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Nous n'allons pas entrer dans les détails de cette lecture, mais simplement dire qu'encore nous voyons que la bénédiction vient non pas de ce que nous faisons pour Dieu ou pour nous-mêmes, la bénédiction vient par ce que Dieu fait pour nous en descendant vers nous dans la personne de Jésus-Christ, un homme qui est Dieu et qui, affaibli sur la croix, paye la peine de nos péchés. Ça nous amène logiquement à ce, excusez-moi, j'ai mes chiffres inversés, ce point devait être 5 et celui d'avant 4, mais la manière étrange dont Dieu nous vainc, c'est en s'abaissant pour être vaincu dans sa faiblesse par nous. Je redis, la manière étrange dont Dieu nous vainc et nous amène à la vie bénie, c'est en s'abaissant pour être vaincu dans sa faiblesse par nous. Regardez, voyant qu'il ne le maîtrisait pas, c'est pourtant Dieu. Il ne peut pas maîtriser Jacob, il n'a pas une force plus grande que Jacob, une force humaine. C'est-à-dire, Dieu prend une force humaine qui est tellement faible par rapport à sa puissance divine. Il s'abaisse tellement ce jour-là. C'est humiliant qu'il est obligé de le toucher à l'emboîture de la hanche juste pour un moment utiliser cette puissance divine pour disloquer la hanche de Jacob. Et il dit, laisse-moi aller. Et maintenant encore, il ne peut pas se soustraire de la prise de Jacob. Même Jacob handicapé est capable de le tenir dans sa prise. Donc il est obligé de dire, laisse-moi aller. Quand l'aurore se lève, Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Jacob est aux commandes. Que tu nous les bénis. Pourquoi est-ce que Jacob a la commande? Parce qu'il s'est emparé de la commande, cet usurpateur? Ah non, au contraire. Cette fois, c'est parce que Dieu, dans son amour, s'abaisse et se rend tellement faible qu'il est à la portée de Jacob et à la portée de sa force. Il se met dans la prise de Jacob. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, car il dit « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » C'est assez étonnant quand nous considérons la manière dont Dieu a rencontré d'autres hommes dans la Bible. Quand il rencontre Moïse dans ce buisson ardent, il y a feu dans le buisson et Dieu prend cette forme et dit à Moïse « Ne t'approche pas, enlève tes chaussures, ce lieu est saint. » Quand il se montre à Moïse une autre fois, il dit « Cache-toi dans la fonte d'un rocher, tu ne peux pas me voir, ça va te tuer juste de me voir. Mais cache-toi et je te laisserai voir juste la traînée de mon passage. » Parce que je suis tellement glorieux et tellement puissant que l'homme ne peut même pas me voir. Alors que ce jour, avec Jacob dans cette lutte, il est dans une forme tellement faible, tellement, tellement, tellement faible. Et c'est comme cela qu'il travaille afin que nous puissions trouver la vie bénie. Regardez ceci. Au sujet de Jésus, la Bible nous dit, Jésus a été crucifié en raison de sa faiblesse. Mais il vit en vertu de la puissance de Dieu et nous aussi, nous sommes faibles comme Jacob, handicapés, nous sommes faibles en lui. Mais nous serons vivants avec lui par la puissance de Dieu. Cette lutte avec Jacob et l'ange s'est répétée à la croix du calvaire. Une deuxième fois, Dieu prend maintenant de manière beaucoup plus ultime la forme d'un homme. Il est homme, homme à notre place, homme qui prend sur lui nos péchés. Et il se rend faible, il est crucifié à cause de la faiblesse. Mais c'est justement comme ça qu'il se met à notre portée, que nous pouvons nous emparer parce qu'il s'offre à nous comme un sauveur crucifié et que nous pouvons revenir à Dieu et la vie bénie, non pas par ce que nous faisons, mais parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a subi dans sa faiblesse. Tout est à l'envers, n'est-ce pas? Dans la manière dont Dieu travaille pour nous sauver et nous bénir. Quand nous comprenons le secret de la vie, cette secret qui est la bénédiction ne vient pas de moi et mes efforts et de ma force, mais de toi et ton abaissement à la croix. Ton amour, ta grâce qui s'exprime dans cette venue de l'homme agneau de Dieu qui me sauve. Quand nous comprenons ce secret de la vie, nous sommes transformés. Vraiment, nous ne cherchons plus la vie bénie dans nos efforts, dans notre force. Nous ne sommes pas là dans cet engrenage de chercher toujours à faire quelque chose pour être bénis. Mais nous sommes bénis, nous avons été bénis. Dieu lui-même est venu à son initiative pour nous prendre à lui et nous n'avons fait qu'accepter. Et de nous loger, de demeurer dans ce pardon et cette grâce et ce salut et cette proximité de Dieu. Nous sommes vraiment, après cela, transformés. Nous ne sommes pas en quête vers un truc par nos forces. Nous avons été saisis par la grâce de Dieu. Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et maintenant, comme vous avez vu, nous sommes en train de parler du fait que quand nous comprenons la manière dont Dieu travaille dans notre vie par Christ, nous sommes transformés. Regardez cette transformation. Quel est ton nom? Il répondit, Jacob, usurpateur, celui qui essaie de s'emparer de la bénédiction lui-même. Il dit encore, non, ton nom ne sera plus Jacob. Tu ne vivras plus comme ça. Tout change dès maintenant. Tu seras appelé Israël. Alors, le mot Israël en hébreu, c'est un mot qui signifie soit Dieu vainc, Dieu est vainqueur, ou Dieu vainc, ou celui qui vainc Dieu. Normalement, en hébreu, puisque c'est un verbe à l'imparfait, et puisque le mot Israël contient le mot Dieu, elle, quand nous avons cette construction, verbe imparfait, et un nom dans lequel le nom de Dieu se trouve, c'est toujours un nom qui signifie Dieu est sujet de l'action. C'est-à-dire, normalement, nous devons traduire Israël, ça signifie Dieu vint. Dieu m'a vaincu. Dieu m'a saisi. Dieu m'a vaincu. Mais bizarrement, l'homme lui définit le nom en disant « car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. » En fait, c'est que Jacob, l'usurpateur, devient l'homme vaincu par Dieu et par là, vainqueur. Parce que dites-moi, les amis, qui a vaincu vraiment dans la lutte? Alors, en sortant de la lutte, qui le voit bien loti? Ben, c'est Jacob qui a la hanche déboîtée. C'est lui qui est complètement changé, qui devient ce que l'homme voulait qu'il soit. C'est pas Jacob qui a déboîté la hanche de cet homme ou qui a changé cet homme qui est Dieu. Non, c'est Dieu qui a vaincu Jacob là, mais en fait, en le vainquant de cette manière, il a rendu vainqueur ce Jacob. Avant, il luttait contre l'ange. Maintenant, il s'agrippe à l'ange dépendamment. Toi aussi, si tu comprends l'évangile, si tu es en Christ, il y a eu ce grand changement fondamental dans ta vie. Avant, tu luttais contre Dieu, contre le fait que la bénédiction et le bonheur viennent de Dieu et en Dieu. Et maintenant, tu t'agrippes à Dieu. Tu ne veux le trouver qu'en lui. Ou bien, avant, en homme fort, Jacob cherchait à s'emparer de la bénédiction par ses forces, ses ruses, ses efforts humains, comme nous le disions. Maintenant, en homme affaibli et dépendant, il reçoit la bénédiction comme un don souverain que Dieu voulait lui donner, avant même qu'il ne veuille le recevoir. Avant, Jacob luttait avec des hommes, gagnant ses luttes, mais perdant chaque fois leur amitié. Il perd l'amitié d'Ésaü, il perd la faveur de son père, il perd la faveur de Laban. Jacob gagne des luttes, mais il finit toujours vainqueur dans la lutte, mais perdant. Maintenant, en perdant la lutte avec Dieu, qui l'affaiblit, Jacob reçoit la bénédiction gratuitement en réjouissant de l'amitié de Dieu. Il est gagnant. Il n'a pas perdu la faveur de Dieu, il a gagné. Comment l'a-t-il gagné? En étant quelqu'un de bien? Non, il est l'usurpateur. Il est celui qui ne mérite pas l'amitié de Dieu. Comment est-ce qu'il a l'amitié de Dieu? Ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de ce qu'il est. Ça ne vient pas de ce qu'il peut faire. Ça vient de Dieu et la grâce imméritée de Dieu. Il ne fait que recevoir. Avant, il voyait Dieu comme quelqu'un qui pouvait mettre à son service ou cerner. Jacob voulait contrôler Dieu, tout comme il contrôlait les hommes. Et beaucoup de gens religieux font cela aujourd'hui. Pour eux, Dieu est quelqu'un qui veulent contrôler par la prière, qui devient une technique païenne ont essayé de mettre Dieu sous leur coupe. Il y a d'autres personnes dans la nouvelle spiritualité qui sont des Jacob aussi. Ils essaient d'usurpater, de prendre contrôle de la puissance de l'univers, de contrôler, de cerner. Jacob était comme ça. Mais maintenant, il voit que Dieu est le Dieu insaisissable. Tu ne peux pas le contrôler. Tu ne peux pas faire qu'il te bénisse. Dieu est le Dieu insaisissable qui nous bénit, non pas parce que nous arrivons à le saisir par notre propre volonté et nos efforts, mais en raison de son propre amour pour nous qui nous saisit. Et nous comprenons cette grande leçon. Notre part, c'est pas de saisir Dieu, c'est de nous laisser saisir par le Dieu qui est là déjà en train de dire « Ouvre-moi la porte ». Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom ». Tu vois, un peu encore, il essaie de cerner Dieu. Il veut connaître quelqu'un, le nom de quelqu'un. Parfois dans la Bible, c'est une manière d'être son chef. Tu peux le nommer, tu cernes, tu sais qui c'est, tu as son identité dans ta poche. Je le connais, je connais son nom. Mais l'ange lui a répondu, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il ne dit pas. Il ne donne pas son nom. C'est-à-dire, non, tu vas pas me contrôler, Jacob. Je t'ai déjà déboîté la hanche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Tu ne me contrôles pas. Tu ne me cernes pas. Je suis le Dieu insondable qui te bénit. Pourquoi demandes-tu mon nom? Je te bénis. Et vous? Êtes-vous un Jacob qui lutte contre Dieu en cherchant de trouver la bénédiction par vous-même? Ne voulez pas vous devenir un Israël aujourd'hui qui a enfin compris, parce que Dieu est venu vers toi en Jésus-Christ, que c'est lui qui a tout fait, que c'est lui qui t'aime le premier et que c'est lui qui bénit. Laisse-le simplement entrer. Repentez-vous. Acceptez ce changement de caractère. Tu ne seras plus un Jacob. Tu ne peux plus vivre comme avant. Mais tu vivras désormais comme je veux que tu vives, complètement dépendant de moi. Oh, que vous puissiez tous connaître cette glorieuse réalité. Et si vous êtes chrétien, oh, que vous et moi, nous puissions le vivre plus profondément et ne pas revenir à notre nature de Jacob si souvent. Que Dieu nous aide. Il est digne. Je vais arrêter le partage. David va, non pas usurper, mais prendre le contrôle que je lui donne, et nous allons chanter un dernier chant.